Caroline Cloutier, comment vas-tu?
Ça va très très bien.
Ah, attends un instant, il semble qu'il y a un petit problème technique. Voilà, là, on devrait mieux t'entendre maintenant. Alors, ça va très bien. Donc, aujourd'hui, pour ta chronique, on parle de thanatopraxie.
Oui. Tu sais, moi, je suis thanatologue.
Oui.
Donc, je vais t'expliquer c'est quoi la thanatopraxie, d'où ça vient, pourquoi on a inventé ça.
D'accord. Donc, un petit voyage dans le temps
que tu voyage, aujourd'hui. Oui, un voyage dans le temps.
Mm-hmm.
Alors, la signification du mot, la thanatopraxie, en fait, ça, c'est un art, mais c'est aussi une science qui a but là, de préserver les corps.
Mm-hmm.
Et si on décortique le mot, l'étymologie, thanato, ça vient de Thanatos, qui est le dieu de la mort. Thanatos, ça, c'était l'ami de Eros. Tu sais, c'est toujours associé Eros et Thanatos. Et c'est, en fait, une dualité, parce que Eros, c'est la vie.
Tout à fait.
Et Thanatos, c'est tout le contraire. Et donc, Thanatos, dieu de la mort, et logie, qui est science. Donc, c'est l'étymologie.
La science de la mort, donc, si on se fie à la langue grecque d'où c'est issu.
Et on dit, quand on pratique la thanatopraxie, ça c'est de faire un embaumement. Le praxie, ça c'est tout ce qui se fait là, manuellement, un peu comme une chirurgie. Donc, ça explique la signification du mot thanatopraxie. Alors, en fait, c'est une chirurgie, on pourrait dire une chirurgie post-mortem, mm-hmm. qui a pour but de préserver le corps et de surtout aussi détruire tout agent pathogène. C'est tout organisme qui pourrait contaminer la population vivante.
Tout à fait.
Dans l'histoire, ça fait longtemps qu'on veut préserver les corps. Pourquoi? Parce qu'on avait la croyance que ce serait plus facile pour l'âme de retrouver son corps s'il était préservé. Donc, partout sur la planète, on a utilisé des procédés différents. On connaît tous chez les Égyptiens, tu sais, la momification. Et actuellement, il y a une super exposition au Musée des Beaux-Arts de Montréal.
Oui, tout à fait, je n'ai pas vu encore, mais ça a l'air spectaculaire.
13, je crois que c'est 13 momies, là, mm-hmm. ouais, à voir. Et donc, les Égyptiens, c'est la momification. Au Pérou, il y avait la déshydratation naturelle des corps. Mais les corps les mieux préservés ont été retrouvés en Chine, et c'est parce que ces corps-là étaient sous d'épaisses couches d'argile et de charbon de bois, et ça a créé comme une atmosphère là, qui était idéale pour la conservation des corps, donc un niveau d'humidité parfait, donc mm-hmm. en Chine. Tu sais. Alors,
est-ce que ces corps-là avaient été traités avant d'être ensevelis sous cette argile-là, ou est-ce que c'est
non, pas du tout. Non.
Donc ça s'est préservé naturellement comme ça.
Les traitements des corps, ça c'est l'ère moderne. On arrive dans les années 1600.
Ben même chez les Égyptiens aussi, là, on vidait le corps de différents de ses organes, on les préservait dans des pots. Donc il y avait un certain traitement des corps qui était fait là.
Il y avait un traitement des corps qui était un embaumement. Mm-hmm. Et puis toutes les bandelettes aussi, on sait que le crâne était vidé, tout ça, et que le corps était desséché sur les berges du Nil, bon, il y a différentes choses, mais l'embaumement comme on le connaît aujourd'hui, assez récent, c'est l'embaumement artériel.
Ah oui, ok, ça.
Alors, mm-hmm. on remplace le sang qui est dans les vaisseaux par un liquide de conservation. C'est dans les années 1600, un médecin, botaniste, anatomiste hollandais qui a découvert l'embaumement avec des liqueurs balsamiques. Je ne sais pas s'il en buvait à l'occasion, mais lui-même il s'est préservé très longtemps pour l'époque. On parle des 1600, il est décédé à 93 ans.
Mm-hmm. C'est
quand même, c'est quand même là, oui. Mais ce qui, on parle là, vraiment de l'embaumement moderne, c'est la guerre de sécession qui nous a amené ça.
D'accord.
On dit le père de l'embaumement, c'est le Dr. Holmes, qui avait été commissionné par le corps de l'armée américaine devaient... En fait, les familles voulaient que les soldats soient rapatriés dans leur village. Et il y a eu 620 000 décès. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment pratiqué l'embaumement artériel que l'on connaît ici au Canada depuis, et qui est encore pratiqué. C'est 2 ans après la guerre de sécession, donc en 1867, que le formaldéhyde a été inventé. Là, c'est un chimiste allemand qui a inventé ça. Et là, on a essayé toutes sortes de solutions. On a ajouté du sulfate de zinc. Même à une certaine époque, on a mis de l'arsenic. Et puis, on s'est rendu compte que c'était dangereux pour le thanatopracteur. Là.
C'est oui, tout à fait, puisque l'arsenic, c'est toxique.
Puis, ça contaminait les nappes phréatiques aussi, sous les cimetières, ces corps-là enterrés avec l'arsenic. Donc, maintenant, on utilise des produits beaucoup plus... beaucoup moins dangereux pour l'environnement. Et je te dirais qu'il y a même des produits d'embaumement qui sont totalement écologiques, qui sont utilisés. Donc, on oublie l'arsenic, le sulfate de zinc. Là, ça. Mais, tu sais, c'était les recherches qu'il y a eu à l'époque pour chercher à préserver les corps. Aujourd'hui, bon, on a des réglementations à suivre, c'est certain. Puis, nos laboratoires doivent respecter certaines normes. Et, comme par exemple des systèmes de ventilation, une certaine grandeur de salle. On parle de 13 mètres carrés, en matériaux non poreux, tout ça. Et l'embaumement, c'est encore pratiqué beaucoup, parce que les familles choisissent encore d'exposer les corps. Et puis, on sait que c'est apaisant, puis ça fait du bien dans le deuil de revoir la personne.
Oui, ça permet de fermer la boucle qui n'est pas nécessairement possible avec la crémation où on se retrouve confronté à une urne. C'est un choix que plusieurs, je pense que les gens font de plus en plus.
Tu as parfaitement raison. Ça permet de boucler la boucle beaucoup mieux, de réaliser que la personne est décédée parce que tu le constates. Il y a une absence de sens. Et c'est ça qui fait que tu réalises vraiment que la personne est décédée. Elle ne respire plus, elle ne bouge plus. Et quand on voit la personne dans sa...
Si on n'est pas confronté au corps, c'est encore possible de rester dans le déni pendant une certaine période de temps.
Oui.
Tandis que quand on est confronté au corps, c'est incontournable. Il faut, c'est une étape qui est franchie plus rapidement, je pense.
Tout à fait. Alors, voilà, je profite de l'occasion pour rappeler des activités à venir pour nos membres.
L'Assemblée générale
L'Assemblée générale, 23 novembre à 10h à l'école André Laurendeau, 7450 boulevard Cousineau, à Saint-Hubert. Alors, tous nos membres sont invités. Et nous avons également Noël sans toi, des outils pour aider à passer un premier Noël le mieux possible suite à la perte d'un être très cher. Alors, ça se passe dans nos succursales de Longueuil, Montréal et Laval. C'est à partir du 3 décembre, le 3, le 4, le 9. Alors, visitez notre page Facebook ou notre site web pour connaître les détails de ces ateliers, conférences et événements.
Merci, Caroline, de ton passage pour... vivre en paix. Et puis, ça me fait plaisir de collaborer avec toi. C'est la dernière fois qu'on se voit dans le cadre de cette émission. Il est possible que je revienne en 2020, mais je dois laisser ma place à ma collègue, la
Cible. À Barbara.
Barbara Secours, justement. Et puis, je te laisse entre de bonnes mains.
J'ai adoré faire les chroniques avec toi.
Ben, moi de même. Alors, on espère qu'on va pouvoir renouer l'expérience.
J'espère que je t'ai convaincue à devenir membre.
je vais t'envoyer mon reçu de carte de membre.
Oui.
Merci, Caroline. Passe une excellente journée.
Toi aussi.